Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
What time is it now? Time is it now? Doctor Who? Doctor Who? What time is it now? Time is it now?
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans la suite de nos previews de la saison NFL 2021 sur Touchdown Actu, un jour, une preview. Et aujourd'hui, ce sont les Las Vegas Raiders, vous avez vu, j'ai même pas dit Oakland, Las Vegas Raiders donc qui en plus vont jouer dans leur nouveau stade de Las Vegas pour la première fois avec du public puisqu'ils l'ont inauguré à huis clos l'an dernier. Pour parler de cette équipe à mes côtés, Raoul Villeroy, bonjour.
Hello, hello.
Grégory Richard, bonjour.
Bonjour, t'inquiète pas, t'as un quart d'heure pour te prendre les pieds dans le tapis encore.
Oui, c'est vrai. Non, mais là, ça commence à rentrer. Les Los Angeles et Las Vegas, ça commence à rentrer. Cette équipe de Las Vegas, donc, a 8 victoires, 8 défaites l'an dernier. Elle a signé Kenyan Drake, John Brown, Willie Snead, Nick Martin, Yannick Ngakoue, Solomon Thomas, Quinton Jefferson, Darren Lee, Kazee Hayward, Rasul Douglas et Carl Joseph notamment. Elle a drafté Alex Leatherwood sur la ligne, Trevon Merrick en défense. Et ils ont perdu Nelson Agholor, Jason Witten, Trent Brown, Gabe Jackson, Rodney Hudson, Arden Key, Tack McKinley, Maurice Hurst, Vic Beasley, Eric Harris, LaMarcus Joyner et Jeff Heath notamment. Les Raiders qui sont quand même toujours sur une construction plutôt à l'ancienne, Greg, j'ai l'impression. Alors, oui et non, parce qu'il n'y a quand même plus de ligne offensive. Aimait bien.
T'exagères. Bah, et oui, oui, bah, ça a été forcément le gros chantier de l'intersaison.
Il y a moins de ligne offensive.
Ça s'est un peu vidé.
Et bah, écoute, on peut commencer par ça. Est-ce qu'il y a toujours une ligne offensive? Parce que clairement, c'était le chantier de l'intersaison.
Bah, ils ont perdu de l'expérience. C'est sûr que forcément, quand tu prends les choix aussi radicaux que ceux qui ont été faits par les Raiders, notamment en trucidant un petit peu ton côté gauche, c'est sûr que c'est forcément un élément qui va faire que ça va tâtonner. J'aurais du mal à te dire que je te les mets en point fort à l'orée de cette saison, mais bon, Colton Miller, on a vu, se développe petit à petit. A priori, ce sera lui le tackle gauche. Il y a toujours un Richie Cognito. Alors, je parlais de Jason Peters il n'y a pas longtemps. Bon, lui aussi, je pense qu'à un moment donné, il y aura peut-être une date de péremption, mais en attendant, jusqu'à preuve du contraire, ces dernières années, bon, il n'a pas démérité non plus. Nick Martin a un petit peu payé les mauvais mois de Houston ces derniers temps, mais je pense reste un centre fiable globalement, même si c'est pas du niveau de Rodney Hudson. Donc voilà, après c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont être lancés dans le grand bain, John Simpson, Alex Leatherwood, le rookie dont tu parlais tout à l'heure, j'en oublie un, Brandon Parker aussi, hein, qui a pas totalement rassuré, mais il faut voir. Donc c'est vrai que c'est un petit mix comme ça qui rassure pas totalement, surtout quand on sait que la ligne des Raiders ces dernières années était loin d'être catastrophique, au contraire. Donc là, on a voulu, je pense, pour des raisons contractuelles, essayer de remodifier un petit peu tout ça. Ça peut ne pas être sans risque, mais en attendant, je ne serais pas complètement pessimiste sur cette O-line.
Je prends de l'avance dans la preview. Est-ce qu'on peut déjà dire que c'est le facteur X de la saison, Raoul, cette ligne?
Tu prends bien de l'avance parce que c'est mon facteur X, effectivement. Dans la mesure où Greg le souligne, ça a été une des forces de cette équipe de Las Vegas les saisons dernières. Et ouais, moi non plus, je me gourre pas. Et malgré ça, ça a jamais été explosif en attaque. Il y a eu des très belles choses. Il y a encore des bons joueurs, et je pense notamment à Josh Jacobs au sol, mais avec une ligne offensive qui forcément aujourd'hui est un peu moins forte parce qu'un peu moins d'expérience aussi. Est-ce qu'ils vont réussir à avoir un niveau aussi important en attaque? J'ai du mal à l'imaginer. Donc, par définition, cette ligne offensive, ouais, est vraiment le facteur X des Raiders cette année.
Greg, je disais que Mike Mayock et John Gruden construisent un peu à l'ancienne, c'est-à-dire qu'ils aiment bien du jeu au sol, ils aiment bien, ils ont remanié pas mal leur défense depuis qu'ils sont là. Est-ce que du coup le jeu au sol, qui était quand même plutôt bon avec Brandon, je veux toujours l'appeler Brandon Jacobs, je suis nostalgique des Giants, avec Josh Jacobs, donc est-ce que ce jeu au sol est toujours une force de cette équipe et est-ce que ce sera toujours le moteur de l'attaque, parce que c'était quand même une des bases de leur attaque ces derniers mois.
Ouais, après pour le coup c'est un jeu à l'ancienne, mais je pense que justement l'intégration de Kenyan Drake peut apporter justement un peu plus de vélocité, je dirais, dans le backfield, c'est-à-dire le côté peut-être un peu moins, non pas que Josh Jacobs est un bulldozer, hein, on a vu qu'il était capable de faire plusieurs choses, mais c'est vrai que d'apporter un peu plus de vitesse encore dans le backfield justement pour pouvoir alterner au poste de running back et écarter un peu plus le jeu, je pense que c'est pas forcément une mauvaise solution, surtout encore une fois avec une O-line qui présente quelques points d'interrogation, voilà, peut-être aussi avoir une ligne un peu plus en mouvement, se remettre un petit peu à l'ordre du jour, hein. Je sais pas si forcément tout va changer du jour au lendemain, parce que je te rejoins, c'est sûr que John Gruden a l'air quand même bien bien ancré dans son époque, mais voilà, on a l'air quand même de voir quelques prémices avec peut-être également des receveurs qui restent quand même assez mobiles, des Hunter Renfrow, des Henry Ruggs, ce genre de profil là. Ça peut quand même donner une attaque avec un peu plus de vitesse et en effet sortir peut-être du cliché qu'on avait quand même puis le retour en tout cas de Gruden, le côté en effet où voilà, on blinde au sol coûte que coûte pour aller engranger des yards.
Ces changements sur la ligne offensive, en tout cas, ça va être un vrai test hein, pour Josh Jacobs et Kenyan Drake au niveau de leur performance. Est-ce que du coup on met ça dans les points forts, tous ces skill players que t'as nommé, Greg, Hunter Renfrow, Henry Ruggs, John Brown, on peut même citer Darren Waller, évidemment le tight end qui est probablement le receveur numéro 1 de cette équipe, et puis donc Josh Jacobs qui est quand même un coureur à plus de 1000 yards. Tout ça, ça semble être une belle escouade de skill players offensifs.
Oui, sur le papier, ils ont un groupe assez fourni. Alors après, il faut en voir plus que ce qu'on en a vu d'Henry Ruggs de la saison dernière. En tout cas, dans le domaine purement offensif. On sait qu'il y a un Brian Edwards également qui avait été drafté quand même au troisième tour, je crois, en 2020. Donc voilà, qui est là pour apporter, lui, un peu plus de taille. John Brown, tu l'as dit, c'est vraiment pour apporter un peu plus de verticalité encore. Et je pense un peu plus d'aptitude que pouvait en apporter un Tyrell Williams, par exemple, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, c'est sur le papier, cette escouade, je trouve, elle a quand même de la gueule et elle peut permettre justement de bonifier un Derek Carr qui, même si on est très critique le concernant parce que il a peut-être un petit peu de mal à franchir ce palier, ça reste un quarterback extrêmement régulier, capable de limiter les erreurs et de faire avancer son équipe. Donc voilà, ça peut en tout cas être un élément qui permette, d'apporter cette alternance nécessaire à Las Vegas. C'est pas uniquement le côté, bah le jeu au sol, ça passe pas. Va peut-être falloir forcer sur troisième tentative à la passe ou ce genre de choses.
Alors Grégory nous amène vers un point central évidemment de cette preview. Raoul lève les bras. Derek Carr, quarterback solide, 27 touchdowns, 9 interceptions la saison dernière. L'an dernier, Raoul avait annoncé la prise de pouvoir de Marcus Mariota. Alors les choses ne se sont pas passées comme prévu.
Exactement.
Mais il y a des choses dans le monde qu'on ne peut pas prévoir. On l'a bien vu ces 18 derniers mois. Donc Marcus Mariota n'a pas pris le pouvoir. Là, je suis face à deux hommes qui ont des convictions très tranchées et qu'on respecte, hein, attention. Marcus Mariota d'un côté pour Raoul et Nathan Peterman qui est aussi sur le banc du côté de Grégory. C'est le moment où je vais vous laisser vous battre. Lequel des deux va détrôner Derek Carr si un des deux détrône Derek Carr? Est-ce que tu crois toujours en Marcus Mariota, Raoul?
Malheureusement, je ne peux pas être aussi affirmatif que l'an dernier, parce que force est de constater que Derek Carr a répondu un peu aux attentes qu'on avait en lui, un peu, même si aujourd'hui, je ne suis pas 100% convaincu. Mariota, il n'a pas joué. Et malheureusement, moins tu joues, moins tu as de chance de revoir un peu le terrain quand ton quarterback continue à être sur une lancée honorable. Donc, non, je ne reprendrai pas la défense acharnée, en tout cas, de Marcus Mariota cette année. Maintenant, s'il veut me donner raison avec un an de retard, je le prends volontiers aussi.
Bon, d'autant qu'il est un peu blessé, en plus, lors du camp d'entraînement. Grégory, ton poulain à toi part encore un peu plus loin. Est-ce que Nathan Peterman va d'abord manger Marcus Mariota, puis Derek Carr, puis le monde?
Ça me paraît évident.
Bon.
On voit quand même qu'il y a eu une amélioration significative. Je n'ai même pas resté sérieux. Il y a eu une amélioration significative en 2020. quand même un pourcentage de 60% à la passe sur la dernière campagne, son meilleur ratio en carrière, hein, avec une belle fiche de 3 sur 5.
Voilà. Oui, voilà, j'allais dire, il a joué, il a lancé combien de passes?
Un ratio de 9 yards à la course, bon, sur une course, mais en tout cas, c'est un échantillon quand même assez intéressant. Donc, non, on voit que Nathan Peterman progresse et qu'on apprécie, pour les plus romantiques d'entre nous, son jeu séduisant. Et je pense, alors je ne souhaite pas de mal à Derek Carr, bien entendu, je pense que l'histoire va s'en mêler et qu'à l'orée d'un match face aux Chargers, Derek Carr va devoir déclarer forfait. On va retrouver Nathan Peterman face aux Chargers.
Ah oui, pitié.
Et il va clairement se venger sur cette défense de Los Angeles, je l'annonce. Pour lancer pleinement la campagne des Raiders. Donc voilà, ce sera un statut numéro 2, bien entendu, dans un premier temps, parce qu'il faut respecter la hiérarchie et le statut actuel de Derek Carr. Mais je pense que ce n'est qu'une question de temps, messieurs.
D'autant que Nathan Peterman a 27 ans, donc il entre vraiment dans la meilleure période de sa carrière. Là. Ils en ont pour 10 ans derrière, en plus.
On peut le dire, c'est le zénith. Ouais.
Bah, on voit Tom Brady, Nathan Peterman peut encore largement faire aussi bien que lui.
Là, c'est que le début. Bon, pour être plus sérieux, pour les gens qui découvrent l'émission et le podcast, bon, a priori, Derek Carr n'est pas trop menacé. Plus sérieusement, mais vraiment en deux mots, Nathan Peterman peut quand même prendre le poste de doublure. Il a joué en pré-saison, il a plutôt joué correctement. Ça, en tout cas, il peut passer numéro 2.
Oui, bah après, c'est toujours pareil. Je pense que bon, Mariota a des attributs athlétiques et voilà, enfin, a quand même un profil, je pense, qui peut en faire un sérieux numéro 2. Après, ouais, je te dis, je sais pas. Pour le coup, franchement, entre Mariota et Peterman, Mariota, je pense, a plus de. Je le répète, tu as plus d'attributs pour avoir un statut de numéro 2, pour assurer le coup si vraiment tu dois lancer un quarterback titulaire derrière en cas de, en effet, de petit pépin avec ton titulaire.
Il perd peut-être moins de ballons aussi, Mariota, sans vouloir.
Sans doute, oui. Il y a peut-être une fiche de 3-12 en carrière. C'est
on, sûr. On s'est un peu étalé sur notre blague sur les quarterbacks remplaçants, oui. Mais on est d'accord, Derek Carr, 27 touchdowns, 9 interceptions, c'est un quarterback. Pour résumer, on peut dire bien, mais pas top.
Oui.
Ça fait quand même partie des points forts, à mon sens, du côté de Las Vegas. Ce serait compliqué de dire le contraire malgré tout.
Alors, est-ce qu'en défense, il y a un point fort, Greg?
C'est une excellente question, alors. Pas orientée du tout. Et...
je veux être synthétique parce qu'on s'est un peu étalé. Donc là, j'attaque, je tranche.
Bah, écoute. Alors, il y a des points forts. En tout cas, il peut y en avoir. Moi, j'aime bien certains ajouts qui ont été faits au niveau du pass rush. On sait qu'il y a un Max Crosby, notamment, qui a bien performé ces derniers mois. J'aime beaucoup l'arrivée de Yannick Ngakoue, qui a rarement déçu, que ce soit à Jacksonville ou même lors de son court passage à Baltimore. Je mets de côté son passage à Minnesota, parce que je me sens que c'était quand même relativement court, mais je sais plus.
Oui, ça a été un fait 4 matchs, non? Je crois à peine.
Voilà, mais même là-bas, il me semble que pour le peu de temps qu'il y a passé, bon, il était capable de mettre un peu de pression sur le QB. Donc, je pense que malgré tout, il y a un groupe qui peut être assez fourni avec une certaine rotation. Clelin Ferrell, qui n'est pas aussi dangereux sur le pass rush qu'on pouvait l'espérer, mais qui est capable d'apporter un peu plus de choses, d'avoir un profil un peu plus polyvalent. Malcolm Kuntz, le troisième tour de la dernière draft qui arrive de Buffalo, c'est plein d'éléments qui font en effet que le pass rush peut être clairement différent que ce qu'on en a vu ces derniers mois. Après le reste, au secours, quoi. Et bien, après moi je suis extrêmement favorable au fait que Gus Bradley ait été recruté, puisqu'on a clairement vu que Paul Gunter, le coordinateur défensif, était une catastrophe absolue, en tout cas n'arrivait pas à trouver les solutions pour améliorer cette défense, notamment la défense contre la passe, ce qui était le plus criant. Je pense que l'arrivée de Gus Bradley peut faire du bien, mais j'ai pas la sensation que ça va se faire en 2-3 matchs.
Clairement, l'espoir, c'est le changement de coordinateur défensif, hein. Ça vient pas particulièrement de l'effectif, parce que il y a quand même de l'incertitude au centre de la ligne, les linebackers sont quand même pas très bons, et puis le backfield défensif, la couverture aérienne est remplie de bust. C'est-à-dire que ça draft très haut, mais il y a quand même pas grand-chose qui reste. Ah, Raoul est pas convaincu.
Et à Kaze Ward, quoi.
Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire.
Mais c'est un sale traître, alors je veux plus en parler.
Mais celui-là, ils l'ont fait venir. Quand je parlais des bust, je parlais de ce qu'ils ont drafté.
Oui, on est d'accord.
Kaze Ward, c'est un import.
Ils ont drafté Trevon Merrick, le safety deuxième tour. Alors, c'est sûr que pour l'instant, en termes de contenu de carrière NFL, il n'y a rien. Donc, pour s'appuyer là-dessus, ce sera… voilà. Mais il y a un gros potentiel quand même. À la passe et à la course, on a vu que c'était un joueur capable de performer. Donc, ça peut également être un point favorable. Après, comme tu le disais, c'est essentiellement du développement et c'est essentiellement des joueurs qu'on conserve. Et qui pour l'instant sont pas du tout rassurants. Hein. L'exemple le plus marquant, c'est bien entendu Jonathan Abraham, qui est parti pour être titulaire et dont on sait qu'il est d'une inconstance chronique et qui peut coûter des big plays sur certaines rencontres. Donc, mais ouais, je rejoins tout ce que tu as dit. Tu vois, pour le coup, je me dis peut-être que le jeu à la passe va être moins calamiteux, Mais à l'inverse, je me dis le run stop qui était déjà loin d'être, qui était clairement pas une force l'an dernier des Raiders, l'intérieur de la ligne, tu le disais, il y a pas de rotation du tout, il y a des titulaires. Bon, je crois a priori ce sera Hankins et Jefferson. Ça fait un peu léger, je trouve, sur le papier. Et avec ouais un groupe de linebackers où en termes de talent, ça me paraît extrêmement limité. Donc ouais, va falloir espérer en effet que Gus Bradley fasse des miracles avec ce groupe. A priori, le run stop, c'est quand même un secteur qui lui tient à cœur, mais je sais pas. Pour l'instant, j'attends de m'enthousiasmer pour cette défense des Raiders. Je le répète, ça peut prendre un peu plus de temps que prévu.
Ils ont pris 29,9 points par match l'an dernier. Il n'y a que les Jaguars et les Lions qui ont fait pire. Et donc cette année, ça ne devrait pas être beaucoup mieux. La ligne offensive sera le facteur X pour tout le monde, du coup, on l'a dit au début.
Ouais.
Oui.
Ouais. Ligne offensive donc pour tout le monde. Je vais rassurer avant de donner le prono, en tout cas cette année je ne vais pas leur annoncer les playoffs, donc leurs supporters peuvent dormir tranquille parce que là je vais moins m'ambiancer. Ça commence par un match contre les Ravens, ça enchaîne avec un déplacement à Pittsburgh, donc déjà tu commences bien. Derrière Miami, ils jouent les Dolphins, Chargers à l'extérieur, Bears, Broncos à l'extérieur, Eagles, repos en semaine 8, Giants à l'extérieur, Chiefs, Bengals, Dallas à l'extérieur, Washington, Chiefs à l'extérieur, Browns à l'extérieur, Broncos, Colts à l'extérieur et Chargers à domicile. Ils n'ont pas un calendrier hyper difficile. Ça commence abordable. Dur. Ça commence dur avec Baltimore, Pittsburgh, mais l'enchaînement Chicago, Denver, Philadelphie, New York, par exemple.
Ouais.
Bon, c'est pas imprenable. Il y a Cincinnati derrière, Dallas, Washington, bon, on sait que c'est de la NFCS, ça peut toujours, voilà, Denver, Indianapolis, Los Angeles pour terminer. Selon l'état de forme de Vance, c'est pas dingue non plus.
C'est ça, et si tu me permets, ils ont l'inconvénient d'être dans la division AFC West, pardon. Mais on a vu que c'est sans doute l'équipe qui a posé le plus de problèmes aux Chiefs de l'an passé, avec une victoire à Kansas City et une défaite d'une courte tête du côté de Las Vegas. Donc, c'est pas dit qu'ils prennent un 0-2 forcément contre Kansas City cette année.
Alors, ça fait combien de victoires ?
Bah écoute, moi, on m'intrigue un peu cette équipe de Las Vegas. Je l'ai dit, forcément, je vais très vite être calmé par la O-line, hein, possiblement, mais j'y suis quand même allé avec une fiche de 9-8.
Ah ouais ?
Ouais.
Mais c'est vrai que Greg est toujours l'optimiste dans les pronos.
Ok, ça me rassure alors.
Je pense que si on fait le bilan de, je sais plus, il y a combien, 260 matchs, non, ou 300 matchs, je sais plus par an. Si on fait le bilan des pronos de Greg, ça fait.
Il n'y a que des équipes avec des fiches positives, je crois.
Ouais, au lieu d'avoir 150-150, tu vois, il doit avoir 200-100, tu vois, un truc comme ça. moi, je vais aller à 6-11. Ah, Raoul, tu vas encore plus bas.
Ouais, tu vois, tout à l'heure, tu as dit il y a les 4 abordables au milieu, puis bon, il y a Cincinnati. C'est les 5 victoires que je vois.
Oh là là. Ouais, moi je vais quand même à 6. J'irai à 6-7, quoi. Ouais, je vais dire 6-11.
Vous ne tenez vraiment pas compte d'une possible amélioration de la défense?
Non.
Non.
En fait, pour vous, elle va rester aussi catastrophique qu'elle l'était l'an dernier.
Bah, alors, oui, moi,
la O-line ne va pas aider non plus.
Ouais, moi, je prends surtout en compte à une baisse du niveau de la ligne offensive qui va exploser plus Carr et qui va exploser le jeu au sol et qui me fait peur.
Donc, blessure de Carr et Nathan Peterman, et là, c'est fini.
Après, voilà, là, il peut y avoir la mise en place du destin.
Ah, si c'est Peterman, c'est 13-3. C'est 13-4, pardon.
Oui, là, par contre, ça.
D'accord.
Ça changerait tout, mais en l'état actuel des choses.
5-12.
Ouais, 6-11, allez, pour moi. Et donc, un 9-8 pour Greg.
Ouais.
Greg, il veut pas avoir de problème sur Twitter, j'ai l'impression.
Ouais, c'est ça. Et puis, big up à Jean-Michel et Romain.
Voilà, jusqu'à la mort.
Ouais, il veut pas avoir de problème dans l'équipe non plus. C'est la fin de cette preview des Raiders. Merci de nous écouter. On vous remercie si vous nous soutenez sur Tipeee. Vous retrouvez la preview écrite sur le site avec le point de vue d'un autre rédacteur. Pour nous suivre, Twitter et Facebook, c'est @TDActu, Instagram @JeanActu en entier. Et le site internet, évidemment, tdactu.com. Merci beaucoup. On se retrouve demain pour une nouvelle preview. Merci Raoul. Merci Greg. Ciao, ciao.